Audiolib présente Cailloux dans le ciel. Le cycle de l'Empire. Tome 3 d'Isaac Asimov. Traduit de l'anglais par Michel Dutch. Lu par Stéphane Ronchevski. À mon père, qui le premier m'a initié à la science-fiction. Chapitre 1. Un homme lève le pied. Deux minutes avant de disparaître pour toujours de la surface de la Terre qu'il connaissait, Joseph Schwartz déambulait le long des rues accueillantes de la banlieue de Chicago en se récitant des vers de Browning. Ce qui, en un sens, était quelque peu étrange. Une personne non avertie n'aurait jamais imaginé en le croisant que Schwartz fût un inconditionnel de Browning. Il ressemblait trait pour trait au personnage qu'il était. Un tailleur à la retraite, manquant entièrement de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler culture générale. Et cependant, doué d'une grande curiosité, il avait énormément lu. Et cette boulimie intellectuelle lui avait fait acquérir des aperçus dans pratiquement tous les domaines du savoir. Doué d'une mémoire exceptionnelle, il n'avait rien oublié de ce qu'il avait appris. Ainsi, par exemple, il avait lu deux fois Rabbi Ben Ezra de Browning dans sa jeunesse, et bien entendu, il connaissait cette œuvre par cœur. Une grande partie du poème lui demeurait obscure, mais depuis quelques années, les trois premiers vers chantaient dans son cœur. Et ce jour-là, un jour d'été de l'an 1949, plein de soleil et de lumière, il se les récitait dans son fort intérieur. Vieillissons ensemble. Le meilleur encore est à naître. L'apogée, la raison d'être de tout ce qui a été vécu. Schwartz était profondément d'accord avec le poète. Après les dures années de sa jeunesse européenne et les difficultés qu'il avait connues aux États-Unis où il avait émigré, la sérénité d'une vieillesse confortable était une plaisante perspective. Il avait une maison, il avait un peu d'argent, de quoi se retirer. Ce qu'il avait fait. Avec une femme en bonne santé, deux filles bien mariées, un petit-fils pour réjouir ses dernières années en ce bas monde, les plus délectables, quelle raison aurait-il eu de se plaindre? Bien sûr, il y avait la bombe atomique et toutes ces discussions quelque peu choquantes sur l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Mais Joseph Schwartz croyait en la bonté intrinsèque de la nature humaine. Il n'imaginait pas qu'il pourrait y avoir un nouveau conflit. Il ne concevait pas que la Terre pourrait assister une seconde fois au déchaînement de la fureur de l'atome. Aussi, adressait-il un sourire indulgent aux enfants qu'il rencontrait sur son chemin, en leur souhaitant silencieusement de passer vite et sans trop de difficulté le cap de la jeunesse pour entrer dans les eaux paisibles de la meilleure partie de l'existence. Il leva le pied pour éviter une poupée de chiffon abandonnée au milieu du trottoir, enfant trouvé en attente de parents adoptifs. Il ne l'avait pas encore tout à fait reposé par terre quand... Dans un autre quartier de Chicago, était installé l'Institut de recherche nucléaire. Là aussi, les gens avaient peut-être une opinion quant à la valeur essentielle de la nature humaine, mais c'était à leurs yeux des théories dont ils ne se vantaient pas, puisque l'on n'avait pas encore inventé l'instrument susceptible de mesurer quantitativement l'être humain. Et quel que fussent leurs points de vue personnels, ils en étaient tous à espérer que la foudre du ciel empêcherait la dite nature et la maudite ingéniosité humaine de transformer la moindre découverte innocente et intéressante en une arme de mort. Et pourtant, le chercheur atomiste, qui en dépit des tiraillements de sa conscience, était incapable, aiguillonné qu'il était par sa curiosité de renoncer à des travaux susceptibles d'anéantir la moitié de la Terre, eut sans hésiter risqué sa vie pour sauver celle du plus falot de ses contemporains. Ce fut la luminescence bleuâtre scintillant derrière le dos du chimiste qui attira l'attention du docteur Smith. Il la remarqua en pénétrant dans le laboratoire dont la porte était entrouverte. Le chimiste, un jeune homme